Donc aujourd'hui, on va plutôt aborder un sujet qui... J'aimerais que ça soit un sujet de, qui soit plutôt un encouragement pour nous. En même temps, un sujet pour réfléchir. Pour réfléchir. Pour avancer avec Dieu en se disant, il y a des repères avec lesquels il faut aller. Ces derniers temps, j'ai été un peu frappé par... La lecture que j'ai faite, je suis en train de lire un auteur que j'aime particulièrement, qui s'appelle Larry Crabb, et donc je suis en train de revoir, de relire un peu son livre sur l'endroit le plus sûr au monde, et puis Lâcher prise. Je lis les deux en même temps. Je suis frappé par une chose. Et c'est peut-être ça qui inspire un peu ma prédication de ce matin. J'aimerais ce matin que nous abordions le sujet sur qu'est-ce qui fait obstacle à ce que notre vie chrétienne soit une vie heureuse, épanouie, simplement. Hein? Quels sont les obstacles d'une bonne marche spirituelle? Et je remercie Mathieu parce que ça c'est le Saint-Esprit. Il a commencé à aborder des trucs. J'ai dit, mais Mathieu, tu es en train de me piquer mon introduction là. Tu es en train de parler des choses qui me... Hein? Ah voilà, félicitez-moi, hein? C'est la première fois. Hein? Le métier commence à arriver. Enfin, c'était pas évident. J'ai eu les encouragements de Richard hein, pour arriver à faire des trucs pareils. Hein, parce que je préfère, moi, l'oral. Hein. C'est très, très facile, ça, l'oral. Mais avec les supports comme ça, c'est un peu... Voilà, bon. Bref. Donc, qu'est-ce qui fait obstacle dans notre vie chrétienne? Qu'est-ce qui entrave notre marche, qui empêche notre vie chrétienne d'être épanouie? C'est ce que Matthieu disait. Il disait, je suis chrétien. Je dois manifester la joie. Je dois manifester l'entrain. Pourtant, ce n'est pas le cas, toujours. Pourquoi? Quand on regarde notre vie, on voit que la Bible nous demande, réjouissez-vous dans le Seigneur. Soyez toujours joyeux. Et pourtant, qu'est-ce qu'on tire une tête? Très souvent. N'est-ce pas? Bien sûr, on a hérité un peu du catholicisme. On va à l'église, on est au garde à vous. Et on se lève, et on s'assoit. Et on se lève, et on s'assoit. Et on sort. Chut, 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 chut. Bonjour. On a hérité de ce système-là. Trop de discipline. Comment il s'appelle? Luc Corbusier, on avait une réunion, et ça c'est quelque chose d'exceptionnel. Nous sommes occupés à réunir les groupes des jeunes, donc le club des jeunes, enfin l'union des jeunesses des AEPE et B avec les APEB. On est en train de se mettre en connexion pour travailler au niveau du sommet ensemble. Et nous avons une réunion très très historique dans ce sens-là. Et Luc Corbusier a dit quelque chose qui a été très intéressant. Il a dit que les jeunes, lorsqu'ils sont dans leur camp, ils sont différents des jeunes quand ils sont dans l'église. À l'église, ils sont tout... Garde à vous, bouge pas. Même chanter, ils chantent timidement. On n'entend même pas les voix. Alors que au camp, je vous prie de croire qu'ils sautent. Hein. Une génération qui se lève, il faut voir les vidéos comment ils chantent ça. Ils sont tous comme ça. Hein. C'est du ouf. Vous voyez? Pourquoi, disait Luc, pourquoi cela? C'est parce que nous avons des habitudes, des traditions, des modes de fonctionnement, des codes qui nous ne libèrent pas, mais qui nous enferment dans un carcan où nous sommes souvent prisonniers. On doit avoir la joie, on tire une tête. On doit être en paix, pourtant nous sommes certainement angoissés par la performance. Il faut que ça marche. Il faut que mes enfants soient bien habillés. Il faut que les enfants apprennent à bien parler parce que l'image que je donne est une mauvaise image. Si les enfants ne sont pas bien, il faut que... Oh, est-ce que j'y arriverai? toujours dans leur cœur. On se demande, on est frères et sœurs. Et pourtant, Dieu, il doit s'amuser au ciel. Il doit s'amuser de notre fraternité au ciel. Parce qu'il nous voit souvent tellement en guerre, les uns contre les autres. Il nous voit pas seulement dans une guerre ouverte. Il y a des gens qui ne s'aiment pas et ça se voit, même dans l'église, malheureusement. Mais il voit cette autre guerre, silencieuse, insidieuse. En apparence, tout va bien. Je m'entends très bien avec toi, Mathieu. Sauf que quand moi je rentre chez moi à la maison, je te critique. Je t'aime pas. Non, Mathieu, voyons, c'est mon frère. Qu'est-ce que tu racontes, toi? C'est mon frère, je l'aime. Et je t'aime, n'est-ce pas, Mathieu? Je t'aime beaucoup. Mais chez moi, à la maison, tu as vu ce qu'il a encore fait? T'as vu ce qu'il a encore dit? C'est toujours ça. On est frères. On crée des tranchées. Vous savez, les tranchées à la Deuxième Guerre mondiale, à la Première Guerre mondiale, on se cache dedans, boum, on tire, et on se cache. Boum, on tire, voilà. Pourquoi est-ce que la Bible nous demande d'avoir un bon caractère pour qu'on a si mauvais caractère, pour qu'on est si dur? Pourquoi cette guerre froide, silencieuse que nous menons est alimentée par la médisance, par des rancœurs? C'est une réalité, n'est-ce pas? On ne peut pas le nier. Pourtant, c'est des choses qu'on ne sait pas se dire en face. C'est des choses qu'on ne sait pas se dire en face. Pourquoi? Pourquoi est-ce que la parole de Dieu a si peu d'impact dans nos vies? Pourquoi? J'ai eu beaucoup de mal à faire cette prédication. Parce que il ne s'agit pas que de vous, il s'agit de moi aussi, de me poser les bonnes questions, d'être honnête. Merci. Je te pique ta présidence. D'être honnête avec moi aussi. Et ne dites pas le contraire. Ne dites pas que ce n'est pas faux, ce n'est pas vrai ce que j'ai dit. Elles sont rares, n'est-ce pas? Les églises où il y a une vraie communion fraternelle. Une vraie fraternité. Elles sont rares, ces églises-là. Moi, je rêve des relations fraternelles où je peux vraiment ouvrir mon cœur, dire mes angoisses, mes fantasmes, mes peurs, sans que je me dise que je suis jugé, sans craindre le regard de l'autre. Je rêve d'une église où je peux avoir des défauts, des difficultés à m'en sortir avec un combat dans ma vie, mais que je sais que les autres ne sont pas là pour me pointer du doigt, mais qui sont là pour m'accompagner, me soutenir, aller avec moi. Je rêve de ça. Je rêve d'une église où le vrai pardon existe. Plus de rancœur, plus d'amertume, plus de ces colères cachées, sournoises. Ou simplement, je sais que quand je regarde quelqu'un en face, je sais qu'il ne pense pas moins que ce que je pense. Je peux dire, il pense du bien de moi. Je peux lui dire tout ce que je veux. Il ne me dira rien de mal. Alors, la question c'est, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'une telle communauté est-elle possible? Est-ce qu'un tel chrétien existe-t-il? Peut-il vraiment exister? Vous connaissez la réponse. Non? La réponse, elle est oui. Oui, une telle communauté peut exister, c'est possible. Un tel chrétien, c'est possible. Pourquoi? Parce que nous avons Dieu. Et ce n'est pas n'importe quel Dieu. Le Dieu de Jésus-Christ, celui qui dit « Toute chose est possible à celui qui croit » et qui dit « Rien n'est impossible à Dieu ». Qui dit, il veut faire de nous une famille. Qui dit, il a des projets pour nous de nous rendre meilleurs, de nous amener à la perfection. Il est temps peut-être, n'est-ce pas, vous êtes d'accord, vous serez d'accord avec moi, il est temps que nous les chrétiens nous montrons le visage d'un autre christianisme. Un christianisme qui donne envie aux gens d'être chrétiens. Un christianisme qui donne envie aux gens de nous fréquenter. Qui donne envie aux gens d'aimer Dieu, de se passionner pour Dieu. Un christianisme où les uns, les autres, nous sommes comme des boosters pour pousser les autres encore plus à aimer Dieu, à aller vers Dieu encore plus, à grandir encore plus. Il est temps que ce visage du christianisme change, que nos vies personnelles soient des vies épanouies, heureuses, que nos vies communautaires soient des vies spirituelles. Et nous avons intérêt, parce que c'est à la fois pour notre confort mutuel, conformément à la parole de Dieu, mais c'est aussi pour l'avenir. Il faut que nous montrions le chemin à nos enfants et à nos jeunes. Il faut qu'eux voient cette route que nous traçons et qu'ils voient comment nous l'avons tracée, pour qu'eux développent cela. Ce que nous ferons en bien aujourd'hui, nos enfants feront ça en mieux. Ce que nous faisons en mal aujourd'hui, les enfants feront en pire. Les enjeux sont ouverts. Les dés sont jetés. On y va. La compétition est ouverte. Quels sont les obstacles qui empêchent que la réalisation de cette vie selon l'esprit, cette vie ancrée dans la parole de Dieu, non pas dans l'esprit, mais dans la lettre. Non, pardon, qu'est-ce que j'ai dit ? Non pas dans la lettre, mais dans l'esprit. Pardon. Excusez-moi. J'aimerais partager quatre obstacles. Quatre obstacles. Il y a dans deux qui ne dépendent pas de nous, qui dépendent des circonstances de la vie, des incidents de la vie, de ce qui se passe dans notre vie, ce qui nous arrive. Ce n'est pas nous qui inventons ça. Et il y en a deux autres qui dépendent de nous. C'est nous qui en sommes les moteurs, les éléments. Donc, quatre obstacles. C'est pour ça que j'ai mis dans mon introduction quatre obstacles. Tu ne mets pas l'autre, hein, parce que sinon, ils vont tout découvrir. Et s'ils découvrent tout, ça ne sert à rien que... Hein, bon. Quatre obstacles. Deux qui dépendent des circonstances de la vie et deux qui dépendent de nous, de notre volonté. Et c'est peut-être l'influence de Larry Crabb, de ma lecture avec lui, c'est peut-être aussi la conséquence que nous avons été à la pastorale de nos églises, en Brabant wallon, hein. Donc, enfin, qu'est-ce que je raconte, de notre église, de l'AEPEB, nous étions à Villers, au moulin de Villers, et... L'auteur, le prédicateur qui s'appelle Joël Attia a parlé sur l'encouragement et il a effleuré des choses qui étaient des sources de découragement pour les pasteurs et beaucoup ont évoqué ce sentiment d'échec, échec dans le travail qu'on fait. Et je voudrais donc prendre ça comme le premier élément. Le premier obstacle que je voudrais aujourd'hui développer un peu plus, mais soumettre à votre réflexion, c'est l'échec. L'échec comme obstacle, c'est un peu aussi Larry Crabb qui m'influence là-dessus, mais j'ai aussi vu ça à travers ce qui a été discuté entre pasteurs. L'échec. L'échec est un obstacle pour que nous puissions vivre, marcher d'une manière épanouie dans le Seigneur. Vivre notre vie d'une manière épanouie. Alors, puisque j'ai quand même un machin là, on va quand même mettre le premier point. Ah, ça fait comme à l'école, ça. C'est bizarre. On va faire d'abord un état des lieux de la situation. Alors, la phrase là, c'est la conclusion hein, à laquelle on va arriver. Je vais d'abord développer. Qui n'a jamais connu l'échec dans sa vie chrétienne ? Qui ? Personne. Tous. Enfin, personne, tu dis tout le monde, enfin, je comprends. On se comprend. Tous, nous avons connu, vécu un échec. En tout cas, si pas un échec réel, au moins un sentiment d'échec, une impression d'échec. Un échec, nous pouvons considérer comme échec tout ce que nous n'avons pas réussi, tout ce qui n'a pas réussi dans ce que nous avons entrepris dans nos vies, tout ce qui n'a pas réussi dans nos projets, dans nos attentes personnelles en tant que chrétiens, tout ce qui n'a pas réussi dans les différents domaines de notre vie, tout ce qui n'a pas marché comme couple, comme famille, avec nos enfants, dans notre vie professionnelle, dans notre vie spirituelle, et tout ce qui n'a pas marché parfois dans nos relations interpersonnelles, certains conflits qui durent et durent et durent et durent et durent et durent avec les gens quand ils sont eux-mêmes des chrétiens, des attentes, des prières non exaucées, une bénédiction que j'attends depuis tellement longtemps que je ne vois pas venir. Un pasteur a raconté que la mort d'un frère très engagé dans son église avait vraiment suscité le trouble parce que ce frère était atteint d'un cancer et l'église a beaucoup prié, beaucoup jeûné pour la guérison de ce frère. Mais hélas, il est mort. Et dans la pensée de plusieurs, ils ont vécu ça comme un échec de leur prière. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Dans nos vies aussi, nous gardons des souvenirs de nos échecs, dans notre propre vie ou dans celle des gens qui nous entourent, des souvenirs d'échecs. On se souvient, ça n'a pas marché, cette histoire. Des prières non exaucées, une liste incroyable. Des tentations auxquelles on a succombé. Je pense que moi, quand j'étais jeune et que quand je succombais à une tentation, oh, j'étais mal. J'avais l'impression d'être un vrai loser, un perdant. Un péché dont on n'arrive pas à se débarrasser. Une manie. Une mauvaise habitude, une accoutumance à quelque chose dont on ne sait pas se débarrasser facilement. Peut-être une attente personnelle dans son cœur qu'on ne voit pas venir. Toutes ces choses peuvent amener à un sentiment d'échec. À l'impression que finalement, on n'est pas si... Ça ne va pas, quoi. On n'est pas si bon que ça. Et j'aimerais seulement dire une chose. Quand on fait l'état des lieux de la situation dans notre vie, soyons honnêtes pour reconnaître que l'échec est une réalité incontournable. Une réalité incontournable à laquelle on est obligé, d'une manière ou d'une autre, tôt ou tard, de se confronter. Et en tant que chrétien, l'échec est là aussi. C'est dur, ça fait mal, mais c'est une réalité. Il faut commencer par prendre acte de ça, dire que ça peut exister. Nous souffrons parce que nous pensons que l'échec est inacceptable. Mais l'échec existe. Il est là. Je viens d'expliquer un peu les éléments. Je vais essayer d'être bref. Deuxième point. Je suis content quand même de... Voilà. Peut-être d'une manière plus pratique. Pourquoi est-ce que l'échec est un obstacle? Quel est Qu'est-ce que l'échec apporte comme difficulté dans notre marche chrétienne? Quel est l'effet des échecs? Waouh, il y a un S qui manque, c'est pas grave. Un littéraire, il trouve ça criminel, hein. Vous voyez? Mais vous n'avez pas vu, vous êtes aveugle, vous n'avez rien vu, d'accord? Voilà. Quel est l'effet des échecs sur notre marche chrétienne? Tout ce qui dans notre vie est perçu comme échec est quelque chose qui nous atteint profondément dans notre personne. Vous êtes d'accord avec moi? Je suis chrétien, je suis censé me comporter correctement, et je n'y arrive pas. Ça m'atteint profondément. Ça me fait mal. Je suis chrétien, je succombe facilement aux tentations. Ça m'atteint profondément, ça fait mal. L'échec, eh bien l'échec blesse notre cœur. L'échec devient quelque chose avec laquelle nous allons vivre. On va commencer à ressasser nos échecs du passé et à souffrir à cause de ça. À souffrir d'avoir fait, peut-être avoir échoué de faire la paix avec quelqu'un. Et ça nous détruit spirituellement. D'avoir échoué peut-être à conduire bien sa famille, ça nous détruit psychologiquement. Ça nous fait mal. D'avoir échoué peut-être à être un bon leader spirituel pour les autres. Peut-être, j'ajoute une chose, le sentiment d'échec, ce n'est pas seulement par rapport à ce que moi je perçois. C'est par rapport à ce qu'aussi les autres me font percevoir. Si quelqu'un, on passe le temps à lui dire « tu es bête », finit par le croire, oui ou non? Si on finit par montrer à tout à quelqu'un que tout ce qu'il fait, c'est pas bien, il finit par se dire « je dois faire gaffe, le mieux à faire, c'est de ne rien faire. Parce que quand je fais quelque chose, je vais faire mal. » Dans un couple, j'ai entendu cette histoire, le monsieur ne faisait plus rien dans le couple. Chaque fois qu'il y avait des initiatives à prendre, il n'osait pas. Et puis finalement, la femme s'est fâchée. Mais ça, c'est un homme qui fout rien ici et tout ça. On a appelé quelqu'un pour venir les écouter. Et lorsqu'on a demandé à l'homme, mais pourquoi tu ne fais plus rien? L'homme a dit, écoutez, si je prends ça, je déplace là, c'est très mauvais. Si je le reprends, je le remets à la place qu'on m'a dit de mettre, c'est très mauvais. Pourquoi est-ce que j'ai mis ça d'abord là-bas et pourquoi je le mets maintenant ici? Et si je dis, ok, ça va, je fais quoi maintenant? Tu fais rien. Alors on me dit, ok, ça va. Attends, non, je ne suis pas en train de critiquer les femmes seulement. Hein. Ça existe aussi avec les hommes. Bon, il y a aussi, faut pas non plus croire que c'est que les femmes. Ici, c'est parce que l'exemple, c'est avec les femmes. Mais ça peut exister aussi avec les hommes. C'est parfois aussi les autres qui induisent le sentiment d'échec dans nos vies. Moi, en tant que pasteur, parfois j'ai peur que mes messages induisent le sentiment d'échec chez les chrétiens. Que ça donne l'impression que, tiens, puisque je ne suis pas à la hauteur pour faire ça, je suis nul. Je ne suis pas capable. Et si je ne suis pas capable, il ne faut mieux pas essayer. C'est une crainte. Le sentiment d'échec est quelque chose qui nous détruit. Et ça finit par nous diminuer spirituellement. Ça finit par diminuer notre capacité spirituelle. Ça finit par diminuer notre foi. Notre foi en un Dieu puissant. Notre foi en la possibilité d'être un instrument puissant pour Dieu. Ça nous diminue, ça nous rend peureux, ça nous rend moins audacieux dans l'exercice de notre foi. Nous avons peur de l'échec, nous l'anticipons dans nos prières. Nous n'osons plus rien faire parce qu'on se dit, ça ne va pas marcher. Ça ne marchera pas. Prier pour le malade là? Non, laisse tomber, je préfère l'envoyer à l'hôpital. Non. Pire encore. L'échec qui est intériorisé en nous, il finit par nous mettre dans des attitudes complexes d'infériorité. Et le complexe d'infériorité entraîne chez nous que nous devenons hyper susceptibles. On a à peine commencé à me donner le conseil, tu veux dire quoi? Mathieu, tu devrais peut-être mettre une veste pour venir présider. Mathieu rentre chez lui. Je suis fâché. Comment il ose dire que moi je viens, que je mette la veste et la chemise que j'ai mis. Voyez, on est fâché. Peut-être que celui qui t'a dit de mettre la veste pensait que c'était bien de te le dire, sans te faire du mal. Mais puisque je suis devenu quelqu'un de susceptible, je prends tout mal. Tout. Même si quelqu'un vient me dire gentiment, ah, j'explose. Oui, oui, pardon, je suis un peu explosif. On se sent amoindri. On croit que tout le monde nous méprise. On est là avec son épée prêt à se défendre. Dès que quelqu'un ouvre la bouche, tu veux quoi? Voyez, mes amis, certaines choses de nos vies sont cachées en nous et produisent des comportements qu'on va croire que c'est des comportements qui sont au niveau superficiel. On croit que les causes sont là. Non, les causes sont beaucoup plus profondes. Elles sont dedans, au-dedans de nous. On est vite de mauvaise humeur. On devient quelqu'un de difficile, de très difficile, de compliqué, de pas facile. Quelqu'un qui s'impose toujours, qui fait tout par la force, qui veut tout obtenir par la force. Petite conclusion donc, l'échec, ou en tout cas le sentiment d'échec, altère notre marche spirituelle. Parce que le sentiment d'échec affaiblit, nous affaiblit spirituellement, nous rend frustrés, nous rend durs. Il n'y a plus de sourire, il n'y a plus de joie. On n'est plus enthousiaste, on n'est plus optimiste. Troisième point. Comment vaincre l'obstacle de l'échec? Comment surmonter ce sentiment d'échec qui nous handicape dans notre marche spirituelle? C'est ici quand même qu'on va ouvrir un peu la Bible. Vous êtes contents? Parce qu'il paraît qu'une prédication sans ouvrir la Bible, c'est pas normal. Oh oui, c'est normal. Comment vaincre l'obstacle de l'échec? Comment le surmonter? C'est un handicap, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Ce que nous venons de voir, c'est que le sentiment d'échec dans nos vies peut vraiment être un vrai obstacle pour nous, pour être des bons chrétiens, des chrétiens qui aiment Dieu, qui vivent joyeusement, simplement leur vie, sans arrière-pensée, sans fardeau, sans poids sur eux. Comment? Il y a deux solutions que j'ai écrites ici. Première solution, c'est sortir. Sortir. Sortir de cette zone d'échec, de ce carcan. Vous savez, il y a des gens qui se réveillent le matin avec le sentiment d'échec et qui se couchent le soir avec le sentiment d'échec. Tout leur fait penser à ça. Tout leur fait penser à leur passé. Tout. Ils sont là, ils ne pensent qu'à ça. Il y a des gens qui sont dans les hôpitaux, qui prennent des médicaments le soir pour ne pas penser. Pour ne pas penser à leurs échecs. Pour ne pas penser à la dure vie. Et sortir de ça, sortir de cette pensée, de cette zone dans son cœur. Et on ne peut pas le faire autrement qu'en s'appuyant sur la parole de Dieu. Ésaïe 48, verset 18. Tu peux mettre, comment? Ésaïe 43, qu'est-ce que j'ai dit? Oh là là! Ésaïe 43, 18. Regardez ce que ce texte dit à ce sujet. Ne pensez plus aux événements... Oh, j'aurais dû mettre le verset 19. Tu sais le mettre? Oh, c'est gentil, super. Oui, nous souhaitons la bienvenue à Ivna pour le psalmo, hein. Et nous lui souhaitons bon courage parce que personnellement, moi je trouve que j'aurais eu du mal moi à faire ça. Ça m'a l'air compliqué ce machin-là. Il y a des astuces, voilà. Ésaïe 43, 18 et 19. Regardez, ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Sortez. sortez du passé. Sortez de tout ce qui vous a fait mal, de tout ce que vous avez noté comme étant un échec. Sortez. N'y pensez plus. Voici, promesse de Dieu, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver. J'aime beaucoup ce petit mot-là, sur le point d'arriver. Comme si Dieu ne se contentait pas de dire seulement je vais faire une chose nouvelle. Il dit, ça va arriver, c'est en route, c'est tout prêt, tout prêt, tout prêt, tout prêt, tout prêt. Je vais faire un chemin dans le désert. Des fleuves dans la solitude. Quand je pense à mes échecs, et que je pense que Dieu veut faire une chose nouvelle dans ma vie, qu'il veut tracer un chemin dans le désert. Alors ma marche spirituelle n'est plus une marche dans le désert. Ou si c'est dans le désert, c'est dans un chemin nouveau dans le désert. Un chemin nouveau. Un chemin où Dieu est avec moi. Où Dieu me conduit. Première chose, sortir. Sortir demande un acte de volonté. Un acte de volonté, c'est « je veux sortir ». Et si je ne sais pas le faire, « Seigneur, aide-moi à sortir ». Je veux sortir, aide-moi. Puisque tu dis dans ta parole, tu me demandes dans ta parole de ne plus penser à tous ces événements, de ne plus considérer ce qui est ancien. Puisque tu dis dans ta parole que tu vas me tracer un chemin nouveau, une chose nouvelle, alors je m'inscris dans ce projet-là. Je veux sortir. Mes amis, souvent nous sommes comme cette personne qui arrive dans ma voiture avec son fardeau et à qui je dis, tu viens déposer ton fardeau comme ça, tu dégages dans la voiture. Nous sommes souvent comme ça. Demandons à Dieu de nous apprendre à déposer nos fardeaux au bas de sa croix. C'est quelque chose de difficile. Puisque Julie était là, je vais donner un petit témoignage de son grand-père. Jean-Pierre Van de Vogt me disait toujours qu'il avait dur à accepter d'être aidé. C'est un truc qu'il refusait catégoriquement. C'est un garçon qui avait les doigts, les mains en or. C'était un menuisier. J'ai vu tout ce qu'il a fait comme travail. Franchement, il fait ça très bien. Et il ne voulait pas qu'on l'aide. Mais Dieu l'a appelé comme missionnaire. Et Dieu l'a amené à accepter de recevoir aussi. De dépendre des autres. Pas seulement de ses propres capacités à lui, mais de dépendre des autres. Demandons à Dieu de nous aider à aider le Seigneur, de nous aider à vraiment laisser Dieu nous sortir de là si on n'est pas capable. Deuxième chose, aller plus loin encore, à la fois dans la réflexion et à la fois dans la considération sur la situation d'échec. Mes amis, je vais vous dire un truc que peut-être vous ne vous êtes pas rendu compte. Savez-vous que toute la Bible est remplie d'histoires où les humains font échouer le plan de Dieu? Vous savez ça? Vous voulez des exemples? Il y en a plein! Il y en a plein! On commence avec Adam et Ève. Ce n'était pas le plan de Dieu, le péché. Hein? Et puis on monte, on remonte, on remonte tous. Noé, le déluge, ce n'est pas le plan de Dieu, hein? Les humains ont systématiquement fait échouer le plan de Dieu. Regardez un peu certaines plaintes de Dieu. Ésaïe 30, verset 15. Et puis on va regarder, ça c'est la plainte de Dieu. Regardez ce que Dieu dit. Car ainsi a parlé l'Éternel, le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre force. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Voilà. Ils ont bien fait échouer le plan de Dieu. En n'écoutant pas Dieu, en faisant ce que, en ne voulant pas, ce que Dieu veut, leur a demandé de faire. Un autre exemple, cette fois avec Jésus qui se plaint. Matthieu 23, chapitre 23, le verset 27. Oh, c'était ça. Bon, en fait, je me suis trompé de notation. C'est Jésus qui se plaint sur Jérusalem, qui tue les prophètes, qui lapide ceux qui sont envoyés. Combien de fois j'ai voulu te rassembler comme une poule qui rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Bon, c'est pas le même texte, donc je vais pas commencer à chercher maintenant parce que j'ai mal noté les choses. Dans le désert, souvenez-vous, Dieu envoie les gens pour aller préparer la guerre. Ils reviennent, 10 d'entre eux, on va perdre. La question c'est, est-ce que Dieu a-t-il renoncé à ses projets face à tous ces échecs? Est-ce que Dieu a-t-il renoncé à son projet à cause de ces échecs? La réponse est évidente. Non, Dieu n'a pas renoncé. Au contraire, Dieu s'est servi de ses échecs pour atteindre ses objectifs. Moi, j'imagine qu'à la croix, ça devait être un spectacle incroyable. La puissance de l'ennemi, le diable, devait se dire « Il est vaincu, c'est terminé, Jésus est mort, c'est terminé, après rien, c'est fini, c'est l'échec de Dieu. » 3 jours après, Jésus est ressuscité. 40 jours après, il est monté au ciel. 50 jours après, le Saint-Esprit est descendu. À partir de là, l'histoire de l'humanité a changé. Face à nos échecs, regardons à Dieu, qui est le maître du jeu. C'est celui qui se sert des circonstances de nos vies pour nous amener à la perfection. Romains chapitre 8, verset 18. Cette fois, je suis sûr de moi. Oh, qu'est-ce que j'ai dit? 18 ou 28, moi j'ai dit? 28, merci. Parce que 18, c'est pas juste. Ça, c'est avec la souffrance. Aïe, 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 aïe. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose concourt, coopère, travaille, y compris les échecs. Soyons donc honnêtes pour reconnaître nos échecs. Peut-être de les analyser sincèrement, connaître les raisons de ces échecs. Peut-être qu'il y a des éléments qui peuvent nous enseigner sur nos propres erreurs, des choses qu'on peut réparer. Mais soyons aussi honnêtes lorsque c'est indépendant de notre volonté, qu'il y a des choses qu'on n'a rien fait de mal, mais qui sont là, c'est des circonstances de la vie. Soyons aussi honnêtes. Souvent, les critères de réussite que moi j'établis dans ma vie, ce ne sont pas des critères bibliques, ce sont des critères humains. Vous comprenez ? Et donc l'échec que j'ai dans ma vie, c'est pas l'échec par rapport à Dieu, mais c'est par rapport aux hommes, par rapport à ma vie terrestre. Si dans la société, il est dit que la réussite, ça veut dire avoir une belle voiture, si j'ai pas une belle voiture, j'ai échoué. Mais c'est un critère purement humain, c'est pas le critère de Dieu. Dans notre conception de l'échec, nous devons savoir que le critère de Dieu sur l'échec n'existe pas. Parce que Dieu ne veut pas notre réussite dans la vie, mais veut la réussite de notre vie. Vous comprenez la différence? Réussir dans la vie et réussir sa vie. Et Dieu se sert pour réussir notre vie, il se sert de tout. Les épreuves, les souffrances, les échecs, tout ce qui se passe avec nous, il s'en sert comme matériau pour nous faire réussir notre vie spirituelle avec lui. Dieu a beaucoup de choses à nous offrir et en mieux. Il nous réserve beaucoup de choses et il utilisera nos échecs pour sa plus grande gloire. Alors, conclusion, Il n'y a rien qui est écrit sur la conclusion, mais tu mets la conclusion juste pour qu'ils voient qu'il y a la conclusion, maintenant qu'ils soient contents, de savoir qu'ils vont pouvoir enfin les manger. Voilà, les obstacles à une marche spirituelle épanouie, l'échec. À nous de nous rendre compte que l'échec existe. Peut-être que vous n'êtes pas dans cette situation-là, peut-être que vous, votre vie n'a été qu'une succession des trucs que vous avez réussi. Peut-être que ça ne vous concerne pas. Mais si ça ne vous concerne pas, alors c'est un enseignement pour vous, pour que vous le mettez dans votre point de, au coin de votre mémoire en disant, je dois savoir que c'est comme ça. Mais si cela vous est déjà arrivé, si vous êtes là-dedans, vous êtes dans ce sentiment que tout dans votre vie est une succession incroyable d'échecs, si vous êtes dans cette espèce de carcan, à vous de savoir que ce que Dieu veut, c'est que vous sortiez de là. Et il y a moyen. En regardant Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que vous allez plus loin. Comprendre que l'échec, Dieu l'utilise aussi. Pour votre bien, pour notre bien. Comprendre cela nous permettra de surmonter l'épreuve, surmonter l'échec et grandir, aller plus loin. Prions. Merci Seigneur pour cette réalité que nous pouvons découvrir qui peut cacher parfois des choses dans nos vies et rendre nos vies un peu difficiles. Merci de nous aider à voir aussi clair là-dedans, Seigneur. Merci de faire ce chemin avec chacun de nous personnellement dans sa vie personnelle et de nous aider tous, Seigneur, à grandir aussi par rapport à cet élément-là. Que toute la gloire te revienne alors que nous t'invoquons dans le nom de Jésus. Amen.